Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions.
L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Florence, j'étais infirmière pendant 15 ans et je suis responsable de l'innovation pour les soignants chez Mapato.
Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et responsable de l'innovation pour les patients chez Mapato.
On vous emmène avec nous à la découverte de ces témoignages qui, on l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien.
Pour cet épisode, c'est Lorraine derrière le micro. J'interview aujourd'hui Pauline du compte Instagram Endoneline. Nous abordons ensemble son parcours avec l'endométriose et notamment le quotidien avec des douleurs chroniques. Dans cet épisode, vous découvrirez ses conseils pour réduire l'impact des symptômes sur son quotidien, ses astuces pour partir en vacances en toute sérénité et bien d'autres choses. Je vous laisse sur notre discussion et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Pauline.
Salut Lorraine.
Merci d'avoir accepté l'invitation du coup sur Chronique. Je suis ravie de t'avoir donc, pour cet épisode. Donc, aujourd'hui, on va parler des cycles douloureux quand on est atteinte d'endométriose. Donc, pour débuter, j'aimerais bien que tu puisses te présenter un petit peu, de savoir qui tu es, ton prénom, ton âge et ce que tu fais dans la vie.
Eh bien, donc, sous Endoneline se cache Pauline. J'ai 28 ans, je suis de Lyon. Et voilà, j'ai eu des symptômes d'endométriose à partir de mes premiers cycles de règles, donc à partir de mes 11 ans. Et je suis diagnostiquée depuis 2020, donc ça fait 2 ans.
Ton diagnostic, c'était il y a 2 ans. Et donc toi, comment ça s'est déroulé? Tu es passée par un gynécologue, comment ça s'est passé de ton côté?
Alors moi, en fait, ça a commencé quand j'étais adolescente. Donc tout de suite, on a été voir mon médecin traitant parce que même mes parents ne comprenaient pas que je sois aussi douloureuse. Lui a mis ça sur le compte du fait que c'était le début des règles, que c'était un peu étonnant pour moi que je souffre autant. Et puis au bout d'un moment, il a vu que je venais plusieurs fois par année, plusieurs fois par mois et plusieurs fois tout court en fait. Donc au bout d'un moment, il en a eu un peu marre. Et il m'a mis sous pilule. Mais entre temps, moi, j'allais déjà aux urgences tellement que ça allait pas du tout. J'ai été mise sous Doliprane, Spasfon, tout ce que tu veux, mais en fait, ça ne servait à rien. Et mon médecin traitant me disait, c'est normal, c'est des règles, ça ira mieux quand tu auras des enfants. T'inquiète pas, t'as un bassin en plus super large, donc tu pourras faire des beaux bébés. Moi, j'avais 16 ans à l'époque, quand il me dit ça.
Ouais, super, quoi.
Voilà, donc à 13 ans, t'as une pilule, à 16 ans, on te sort ça, et en fait, quand tu rencontres ton gynéco à 17 ans, tu lui dis même plus que t'as des règles douloureuses, parce qu'en fait, tu arrives à t'auto-convaincre que finalement, c'est toi la chouchotte et que t'abuses. Donc, il aura fallu que je tombe par hasard sur quelqu'un de formé en endométriose 15 ans plus tard, avant que tout ça commence, et que du coup, elle me pose les bonnes questions, qu'elle prenne le temps de m'ausculter, et que finalement, c'est elle qui va vraiment m'écouter cette fois-ci. Et en fait, ce qui a beaucoup joué, c'est que je sois passée par le stérilet au cuivre qui a décuplé l'endométriose et qui l'a vraiment rendu visible cette fois-ci.
Quand justement cette gynéco, elle a posé le diagnostic, est-ce que tu as été aiguillée par la suite, justement, comment tu allais vivre, quelles allaient être un peu les conséquences sur ton quotidien, mais même si tu connaissais un petit peu les répercussions?
Alors moi, j'étais loin de me douter de tout ça, parce qu'en fait, quand la première fois que j'ai entendu parler d'endométriose, moi, je pensais que c'était uniquement pour les gens qui avaient besoin de faire, enfin, qui voulaient faire un enfant. En fait, moi, je pensais qu'avec une opération, avec une pilule, ça s'arrangeait. Et en fait, quand j'ai été diagnostiquée, la première chose qu'on m'a dit, c'est ça va être dur de faire des enfants, il faudra passer par FIV. Donc, à l'échographie, bim, j'étais toute seule. Ça a été un peu difficile à avaler, sachant que ce n'est pas forcément vrai pour tout le monde. On m'avait adressé à un centre sur Lyon, mais en fait, je savais que dans mon équipe, j'avais une collègue qui avait fait un peu son coming out d'endométriose quelques semaines avant. Et naturellement, le lendemain, je suis allée la voir en lui expliquant tout ça. Et là, elle m'a dit une phrase qui m'a beaucoup sauvée dans mon parcours. Elle m'a dit « Surtout, surtout Pauline, ne va pas n'importe où ». La maladie, l'endométriose, c'est très mal connu en France. Tu risques de tomber sur des gens qui ne comprendront pas ce que tu vas traverser et il faut absolument que tu vois des spécialistes. C'est important et je vais te donner des noms parce que heureusement à Lyon, on est bien lotis. On a des centres de référence de l'endométriose et il faut absolument passer par eux et nulle part ailleurs. Et en fait, elle m'a sauvée, je pense, parce que je suis vraiment tombée sur un radiologue ultra formé sur l'endométriose, qui aussi, du coup, l'échographe qui m'avait fait, la radiologue qui m'avait fait l'échographie, elle était formée. Elle a senti que j'avais des symptômes, en fait. Moi, je venais la voir parce que j'avais très mal au foie, mais en fait, j'avais pas mal au foie, j'avais mal au diaphragme, chose que je savais pas. Et c'est là où elle m'a dit, vous avez vos règles, vous avez mal au diaphragme, vous avez mal à l'épaule. Ça va pas du tout, c'est des symptômes de l'endométriose diaphragmatique, il faut aller voir, faire une IRM absolument. Et en fait, je suis tombée sur des gens qui ont été formés, qui m'ont diagnostiqué vraiment jusqu'au diaphragme, et c'est là où en fait que tout s'est enclenché dans le centre de référence, parce que du coup, on m'a conseillé donc un chirurgien qui était le professeur Golfier, et en fait, heureusement pour moi, j'ai vraiment rencontré des gens qui étaient à l'écoute, qui étaient formés, et qui ont su me prendre en charge. Même si en plus quand je suis diagnostiquée c'était quelques jours avant le premier confinement et c'est là où en fait mon parcours a été très difficile, c'est qu'en fait en pleine période de pandémie ça a été extrêmement violent.
Donc je rebondis un peu sur ce que tu disais, l'importance d'être accompagnée pendant des rendez-vous, l'importance des aidants, parce qu'on parfois on s'en rend pas compte mais... On nous annonce des diagnostics et rien que psychologiquement être accompagné d'une personne qui va peut-être prendre les infos parce que pour nous c'est un choc. Mm-hmm. Et du coup, il y a la moitié des informations qu'on ne va pas retenir. Donc ça, c'est hyper important et c'est aussi pour ça, je pense que ça a été douloureux aussi pour toi psychologiquement d'être toute seule à ce moment-là.
Oui, parce que vraiment, je l'ai très très mal vécu. En fait... pour te dire, hein, ça faisait plusieurs années que j'allais plus voir les médecins parce qu'en fait, à force de se prendre des réflexions du type « Voilà, Pauline, c'est bon, c'est le stress, tu sais, t'es douillette, t'as toujours été comme ça. » Et j'allais plus voir les médecins. Et en fait, c'est mon conjoint qui m'a dit « Bon, moi, je te vois, ça va pas du tout. » Alors que ça faisait quelques mois qu'on était unis ensemble, il me connaissait déjà très bien. Et vraiment, je suis allée faire cette échographie en lui disant « De toute façon, ça sert à rien, on verra rien. Je fais des échographies depuis que je suis gamine. Ça m'a jamais rien apporté. Et de toute façon, c'est dans ma tête. Mmh. Et il m'a dit, vas-y, on sait jamais. Et en fait, j'ai eu mon diagnostic avec l'échographie sans lui. Et en fait, j'ai cru que j'arriverais jamais à rentrer chez moi, tellement que j'étais bouleversée. Rien que d'en parler, tu vois, ça me fout. Et en fait, je me suis dit, mais... tous mes autres rendez-vous que j'ai passés, sachant que les prochains rendez-vous qu'après j'ai eu, je me suis fait accompagner parce qu'en fait, IRM, je suis allée avec ma cousine qui m'a accompagnée parce que je pouvais pas faire autrement. Ensuite, au déconfinement, je rencontre mon chirurgien et en fait, même si on était en période de Covid, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que on respectait les consignes et je pouvais venir accompagner, même si on était en pleine pandémie, que c'était la misère pour tout le monde. On m'a jamais refusé un accompagnant et ça, c'est très important parce que c'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir me reposer sur quelqu'un et surtout quelqu'un qui tient à moi. J'ai eu mon conjoint qui m'a accompagnée. Quand c'était pas lui qui pouvait, c'était ma mère. Oui. Et heureusement pour moi, je me suis sentie soutenue. Et en plus pour eux, ça leur permettait de comprendre, de voir les choses. Et en fait, finalement, de se dire tout ce qu'on est en train de traverser, ça nous touche nous en tant que malade chronique. Mais en fait, nos aidants aussi. Les gens avec qui on vit, les gens qui nous aiment, eux aussi, ils sont impactés. Et ça, c'est aussi une autre facette de la maladie qu'on n'aborde pas forcément. Mais l'énergie que ça demande, l'investissement et la souffrance qu'il y a derrière, elle est vraiment là aussi.
Oui, tout à fait. Je te suis complètement sur ces propos. Et ce que j'ai retenu aussi de ce que tu disais tout à l'heure, c'est le bouche à oreille de ta collègue qui te donne des noms de personnes de confiance. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé Mapato. Axel, elle a dû avoir des personnes de confiance qui lui ont donné des noms. Et c'est comme ça qu'on avance, avoir des recommandations, des conseils de personnes en qui on a confiance, de personnes qui sont également touchées par la maladie et qui peuvent justement nous orienter vers la bonne personne. Donc, soit pour toi, ça t'a fait quand même gagner, je pense, beaucoup de temps que ta collègue puisse te donner des noms.
Oui, bah, complètement. Je pense que je me dis que j'ai eu une chance monumentale déjà d'être dans une ville aussi bien servie au niveau des spécialistes, parce que c'est pas partout comme ça. Et en fait, surtout qu'elle ait eu le courage d'en parler au travail. Parce que ça, déjà, avoir une maladie chronique, c'est pas évident. Au travail, avoir une maladie taboue, bah, encore moins.
C'est vrai.
Et elle a eu un courage énorme de pouvoir en parler. Et en fait, grâce à elle, c'est vrai qu'elle a été déterminante vraiment dans ma prise en charge. Parce que je dis pas que, tu vois, tous les médecins sont nuls. Mais il suffit en fait de se dire que l'endométriose, elle existe depuis 1860. En tout cas, elle a été découverte parce que je pense qu'elle a toujours existé, cette maladie. Voilà, de savoir, moi quand je suis diagnostiquée à la fin de l'année, du coup, enfin, je suis diagnostiquée en fin février et en fait, il y a, en fin d'année, on apprend que voilà, le ministère de la Santé se met enfin en tête de rentrer en fait l'endométriose dans les cours de médecine du second cycle. Et là, en fait, ta tête explose en te disant « Attendez, j'ai pas bien compris. » Ça veut dire qu'en fait, jusqu'à présent, l'endométriose, elle faisait qu'un chapitre dans les cours de médecine.
Tout à fait. Et justement, toi, quand on t'a posé le diagnostic, est-ce que tu as trouvé facilement des informations vers quel type de contenu tu t'es dirigé? Est-ce que tu as regardé sur Google? Est-ce que tu as lu des livres, des podcasts, des réseaux sociaux?
étant donné que quand j'ai eu mon diagnostic, on est tombé en plein dans le confinement, oui, et que j'ai perdu mon travail, il y a eu un moment où en fait je me suis dit il faut absolument que je comprenne ce qui m'arrive. Et en fait, vu qu'on était en plein confinement, et ben les médecins étaient du coup pas disponibles, en tout cas beaucoup moins facilement. Et en fait, ma collègue m'avait dit tiens, va voir, il y a le forum Ma vie avec l'endométriose qui est tenu par Endomind sur Facebook. Tiens, il y a tel livre qui pourrait être bien, comme La maladie taboue de Marie-Anne Mormina, Marie-Rose Galès aussi. Et du coup, on m'a conseillé, en fait, elle m'a conseillé en fait plein de livres, de sites, des associations. Et en fait, donc voilà, elle m'a donné plein de noms d'associations. Et en fait, c'est là où je me suis dit, je vais commander tous les livres que je trouve. Je vais aller sur tous les forums, je vais poser mes questions. J'avais tellement de questions. Du coup, voilà, en fait, je me suis mise pendant le premier confinement à trouver en fait toutes les infos que je pouvais trouver. Je me suis mise à lire, à chercher des infos. Enfin voilà, en fait, il fallait absolument que je comprenne ce qui se passe. Et surtout en fait comment la maladie fonctionnait. Alors même si on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, il fallait que je trouve en fait des réponses, et surtout en fait ces réponses j'en avais besoin pour pouvoir construire un peu mon plan de bataille. Voilà, j'ai des atteintes comme ci, j'ai des douleurs comme ça, qu'est-ce que c'est que ces douleurs, pourquoi j'ai mal comme ça, et surtout qu'est-ce que je peux mettre en application pour aller mieux. Parce qu'en fait, quand j'ai été diagnostiquée, hein, c'est complètement bête à dire, mais en fait, toi, ouais, j'ai perdu mon travail, j'ai cru que je perdais mon couple, parce que je me suis dit, personne ne voudra être avec moi avec une maladie pareille. Je venais de démissionner pour un autre poste, parce que ça se passait très mal où j'étais. Je me suis dit, je vais finir à la rue, parce que j'ai un prêt sur la tête, et que bah, quand tu démissionnes, bah, voilà, et que tu passes ta période d'essai, bah, ouais, t'as pas de chômage. Alors heureusement pour moi, j'ai pu avoir mon chômage grâce bah, à d'autres mesures par rapport au Covid. Mais en fait, toute ma vie, du jour au lendemain, a basculé, et en fait, tout a été soufflé d'un coup. Et je me suis dit, en fait, si je me ressaisis pas, si je trouve pas une solution en fait pour aller mieux, un minimum, je vais tout perdre. Je vais tout perdre. Et ça, en fait, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé un homme que j'aime vraiment beaucoup. J'ai une famille que j'aime. Il est hors de question que je perde le contrôle.
Justement, c'était de mettre en place ton plan de bataille et puis aller au front.
C'est ça. Bah, en fait, vraiment, il y a eu des jours où j'ai cru que j'allais crever de douleur. Et je me suis dit, à un moment, en fait, où je commençais vraiment à perdre espoir, parce que ouais, je devais me faire opérer, et finalement, je pouvais pas, parce que ouais, y a eu différents événements à cause du Covid et pas à cause du Covid. Et en fait, il y a eu un matin où je me suis dit, si ça continue comme ça, je vais pas pouvoir tenir. Enfin, je veux dire, j'étais à un point de souffrance où je pouvais plus respirer sans avoir mal, je pouvais plus marcher sans avoir mal, je pouvais plus dormir sans avoir mal. Et en fait, je me suis dit, mais c'est pas ça, vivre. Je survis, mais je vis pas. C'est et ça. En fait, je me suis dit, si jamais si ça continue comme ça, je pourrais pas tenir.
Des cycles douloureux, c'est... Est-ce que tu as des périodes de répit ou justement c'est en continu ?
Eh ben, alors en fait, c'est assez... Moi, je suis un cas assez particulier parce qu'en fait, j'ai eu des cycles donc extrêmement douloureux quand j'étais adolescente. Okay. Je suis passée sous pilule continue. Et à partir de la pilule continue, j'ai réussi à gérer après mes douleurs de règles. Après, même si je suis passée sous stérilet, c'était douloureux mais gérable. Mais je pense qu'en fait, je devais développer un seuil de tolérance à la douleur tellement important que c'était plus un truc qui me gênait, les douleurs de règles. Mais par contre, c'était tous les symptômes qui allaient autour. Et là, en fait, ça, c'était le pire. Et c'est le pire encore aujourd'hui. Parce que, en fait, l'endométriose, pour moi, elle se traduit. Parce que, bon, t'as plusieurs façons de manifester. Voilà, une maladie, hein. Mais moi, en fait, mon endométriose, elle se manifeste par une fatigue chronique assez importante. Si jamais je suis en stress ou que j'ai le malheur de pas bien dormir, et du coup, c'est encore pire. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que j'ai des douleurs neuropathiques, parce que j'ai des lésions tellement profondes que ça m'a créé des douleurs neuropathiques à la jambe, parce que du coup, on suppose que c'est le nerf sciatique qui est touché. Entre les jambes, à l'avant et à l'arrière, parce que du coup, j'ai le nerf pudendal. Donc ça veut dire que ce soit la vulve, le clitoris ou l'anus, j'ai des décharges électriques à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Ma jambe, c'est comme si j'avais des braises sur chaque centimètre carré de ma jambe. Ça part du haut de mon bassin jusque sous mon pied. Voilà, j'ai des décharges électriques au niveau du diaphragme, parce que vu que j'ai eu des lésions... pas très loin des nerfs phréniques, ça veut dire que c'est comme si je prenais des coups de taser, tu vois, en une minute, c'est comme si des fois, j'ai compté, je peux prendre 18 décharges électriques dans les côtes en une minute, parce que voilà, c'est des douleurs neuropathiques, et quand ça claque jusque dans les épaules, donc en fait, ça peut m'arriver quand je conduis, et en fait, ça me fait très peur. Et voilà, c'est vraiment ces symptômes-là, moi, qui vont m'handicaper, en plus des problèmes digestifs. Sinon, c'est pas drôle. Donc, ça va être voilà, des aliments qui vont plus être possibles à digérer, des aliments qui vont me faire gonfler le ventre, des aliments qui vont me donner la diarrhée, hein, faut le dire. Mm-hmm. D'autres qui font que ça aggrave ma constipation chronique, parce que je suis une constipée chronique à cause de mes atteintes au sigmoïde. D'ailleurs, j'ai 10 cm en moins à ce sigmoïde parce que voilà, ça m'a rongé de l'intérieur, littéralement. Et en fait, c'est tous ces symptômes qui font que mon cycle, c'est pas uniquement résumer mon cycle de règles, ça va être surtout mon cycle en fait, du jour 1 au jour 30. C'est un combat en permanence parce qu'en fait, voilà, mes règles elles sont moins douloureuses. J'arrive à les gérer actuellement. Elles sont moins hémorragiques que quand j'étais adolescente aussi, mais ça va tout, enfin en fait c'est quotidien, c'est tous les symptômes qui sont engendrés, voilà, les conséquences de mon endométriose, c'est ça en fait qui va vraiment faire que j'ai une vie compliquée pour marcher. La dernière crise neuropathique plus que j'ai eue, elle a duré de février 2021 jusqu'à mai 2021. Donc quand je parle de crise plus, c'est qu'en fait j'avais littéralement envie de m'arracher la jambe de jour comme de nuit. Alors aujourd'hui elle me fait moins mal, mais elle me fait toujours mal. mais au moins j'ai réussi à baisser la douleur.
Oui, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut dire, c'est qu'en effet l'endométriose ça s'arrête pas aux quelques jours de règles que peuvent avoir les femmes. Ça, c'est tout le long du mois, en continu et toute la vie. Et justement, toi, avec tous les symptômes que tu peux avoir, est-ce que justement, il y a des choses que tu as pu mettre en place pour réduire un peu l'impact des symptômes sur ton quotidien ?
Oui. Ça a commencé déjà par rapport à mon rythme de vie. Au niveau du travail, aujourd'hui je travaille plus dans le même secteur où je travaillais. À l'époque j'étais chargée de recrutement, c'était un métier extrêmement stressant et le stress me fait flamber littéralement les douleurs. Donc en fait, j'ai décidé de changer de secteur et de passer dans le secteur de la formation. Aujourd'hui, je fais de la formation. Et en fait, j'ai des équipes avec qui ça se passe bien. Et ça, c'est vrai que ça se ressent sur moi. Ensuite, on va dire que c'est au niveau de l'alimentation aussi que j'ai dû faire 2-3 corrections. Alors, je suis pas une adepte, enfin, comment dire. Aujourd'hui, je dirais pas que j'ai une alimentation anti-inflammatoire à 100%, ça serait mentir. Mais en tout cas, il y a des aliments que je me suis, enfin, il y a des aliments en tout cas que j'ai retirés et il y en a d'autres que j'ai préféré introduire pour un peu limiter des désagréments au niveau digestif. Et sinon, après, pour vraiment soulager mes douleurs, ce qui a été décisif, ça a été ma rencontre avec le centre antidouleur de la Croix-Rousse à Lyon, qui dispose d'une unité endométriose, donc avec un protocole qui s'appelle le protocole Endodol. Et là, en fait, j'ai rencontré des personnes juste formidables, comme à l'hôpital Lyon-Sud, qui en fait comprenaient exactement en fait que je vivais vraiment un vrai cauchemar, où en fait tout de suite quand j'expliquais tout ce qui se passait, que j'avais perdu mes travails, enfin dans l'année j'avais perdu 2 périodes d'essai à cause de tout ce qui m'arrivait, que j'arrivais presque plus à marcher, à dormir, et en fait j'ai senti vraiment que j'étais écoutée et que surtout tout le monde allait mettre en place un peu une stratégie pour essayer de m'aider. Et mon choix aussi a été respecté, celui en fait d'essayer, en tout cas dans un premier temps, d'éviter en fait les opioïdes et tous les antidouleurs très puissants, parce que j'avais trop peur en fait de devenir dépendante ou de m'accoutumer, et c'est quelque chose qui me faisait trop peur, et surtout j'avais trop peur des effets secondaires. Et c'est un choix qui a été totalement respecté. Et en fait, on a mis en place des techniques non médicamenteuses pour voir si ça fonctionnerait sur moi.
Super.
Et en fait, donc, je suis passée par donc, le TENS, donc l'électrostimulation. On m'a montré comment m'en servir et ça fonctionne sur moi. La fasciathérapie aussi, donc au centre antidouleur. Moi, en parallèle, j'ai de l'ostéopathie aussi qui m'aide beaucoup. J'ai aussi rencontré, donc, par rapport au centre antidouleur, une acupunctrice, donc médecin, qui fait des miracles sur mes douleurs neuropathiques. Vraiment aussi, ça a été le fait d'avoir rencontré d'autres personnes qui étaient atteintes de la maladie, avec qui j'ai pu changer. Et ça, ça a été vraiment... pour moi, ça fait partie vraiment d'une thérapie, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. On ne vit pas toute la même chose, mais en tout cas, on se comprend sur pas mal de points.
Oui.
Et en fait, ça fait du bien de savoir que bah, tu n'es pas seule et que... voilà, c'est quelque chose qui peut arriver et enfin qui peut arriver. On est tellement nombreuses à vivre en fait ce genre de choses et ça fait du bien de pouvoir discuter. Et c'est vrai que bah ça m'a beaucoup apporté. Du coup, ce qui m'a aussi beaucoup aidé, bah voilà, c'était vrai que l'opération en elle-même, bon bah ça ils ont rafistolé mon diaphragme qui était bien amoché, ils ont retiré le sigmoïde, mon ovaire, ils me l'ont opéré aussi parce que bon, il y avait une sacrée masse aussi, donc ils ont réussi à faire ce qu'il fallait. Ça m'avait soulagé, et en fait ce qui m'a encore plus soulagé, c'est la cure thermale spécifique à endométriose que j'ai pu faire à Challes-les-Eaux. Et ça a été vraiment aussi super bien parce que en fait, et de un, ça m'avait soulagé pour mes douleurs aux ovaires. C'est fou comme ça m'a fait du bien. Et en plus, c'était hyper agréable parce qu'en fait, il y avait d'autres soins qui ont fait que ça a contribué sur tout le reste. J'ai pu faire tester la sophrologie, tester l'hypnose, tester le yoga du son. Alors, au début, c'était pas le genre de choses qui m'intéressaient beaucoup parce que franchement, c'était pas trop mon trip. Mais en fait, la façon dont c'était abordé, en gros, c'était de te dire... Essaye,
c'est ça,
et exactement. Tu verras. Et en fait, tu te prêtes au jeu et en fait, tu vois après si ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, t'auras essayé. Et c'est vrai que ça m'a permis aussi de me recentrer sur moi-même, de réfléchir à comment je comptais aborder tout ça. Et c'est vrai que quand je suis rentrée, en fait, eux, ils avaient détecté que j'avais aussi d'autres soucis. C'était en fait que, par rapport à ma constipation chronique, qu'il fallait que je fasse éventuellement une rééducation périnéale. Et en fait, en rentrant, Donc, ce qu'ils ont pu, en fait, du coup, détecter, ça a été pris en charge. Et du coup, aujourd'hui, je suis aussi suivie par une kiné périnéale. Et mes problèmes de constipation chronique sont, en tout cas, bien améliorés par rapport à avant. Mm-hmm. Et ça, justement, ça fait partie du fait que j'ai rencontré les bonnes personnes.
Tout à fait, exactement. Et justement, avec la combinaison de tes symptômes, où maintenant, tu as un travail qui te plaît, dans lequel tu t'épanouis, est-ce que justement concilier vie professionnelle, personnelle, plus la pathologie, c'est quelque chose que tu arrives en tout cas à mieux faire, en tout cas maintenant que tu as un travail qui te plaît?
Alors, avant même de chercher un travail, en fait, il a fallu que je réfléchisse à qu'est-ce qu'il me fallait et qu'est-ce qu'il me fallait surtout pas. et c'est vrai que ce qui a été aussi décisif, ça a été le fait que j'ai pu monter mon dossier de RQTH, donc okay. De reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Vu que voilà, j'ai été formée en recrutement, je savais que ça risquait d'être compliqué parce que malheureusement, quand t'as une RQTH, c'est loin d'être simple. Mais je me suis dit, il faut que je trouve une entreprise qui ait les mêmes principes que moi, c'est-à-dire zéro discrimination sur le handicap et surtout qui se base sur mes compétences et sur mes valeurs et le reste, ça passe après, quoi. Et en fait, je suis tombée sur une entreprise qui partageait justement ses valeurs et qui n'avait que faire de mon handicap dans le sens où ils m'ont recrutée pour mes compétences, pour ce que j'avais apporté. Et ça a fait beaucoup. J'ai fait en sorte de trouver un travail. Heureusement pour moi, j'ai une chance, je trouve, qu'il soit à 10 minutes de chez moi, un quart d'heure max en voiture. Je prends plus de transport en commun parce que je sais que c'est plus gérable pour moi que ma jambe. Il y a du télétravail. Donc, à raison de 2 jours par semaine. Si jamais ça va pas, je sais que je peux passer en 100% si vraiment ça va pas du tout. Et en fait, ils savent pas que j'ai une endométriose, mes patrons. J'en ai jamais parlé. Ils me l'ont jamais demandé et je pense que c'est pas un truc qui viendra. En tout cas, peut-être qu'ils s'en rendront compte à force de me connaître. Le reste de l'équipe s'en est douté assez rapidement. Parce que c'est des gens qui sont ouverts et qui remarquent des choses, mais sans forcément aller être dans le... Comment dire ? Aller chercher juste c'est pour ça. Savoir. Mmh. Mais j'ai trouvé que ça avait été très, très bien amené. Et en fait, ouais, j'ai fini par en parler parce que pour moi, ce n'est pas un secret de parler de ma maladie. Mais ils savent que j'ai des problèmes à la jambe. Ils savent que je ne peux pas porter, que je ne peux pas me baisser dans tous les sens parce que s'il faut porter des choses, bah, voilà, ce n'est pas moi qui vais m'en occuper. Mais du coup, j'ai vraiment fait en sorte de tenir tout le long de ma période d'essai sans trop en parler parce qu'en fait, je voulais vraiment pas que leur regard se porte sur ma maladie et je voulais vraiment être vue comme une personne à part entière. Voilà, on vit avec un handicap, mais on n'est pas ce handicap. Enfin, il faut vraiment réussir à montrer qu'il faut vraiment dissocier tout ça et ça, c'est hyper important. Et ça, c'est ce qui a fait aussi que je me sente bien dans mon travail, c'est de me dire, je suis avec des gens qui ont des valeurs, qui sont sensibilisés au handicap, parce que du coup, je vais du coup essayer de me développer sur la mission de référent handicap par rapport à l'entreprise. En tout cas, c'est ce que mes patrons m'ont proposé, donc ça me fait très plaisir. Et en fait, quand j'ai initié par exemple le fameux duo day pour faire les duos une journée avec quelqu'un en situation de handicap, ça a été hyper intéressant pour tout le monde. Et tout le monde m'a dit, mais c'est super. Et du coup, je me suis dit, je pense que je suis avec des personnes qui ont des très bonnes valeurs. Et en fait, c'est ce qui fait que je me sens bien dans mon travail.
Mais tu as atterri dans une belle entreprise, en tout cas. C'est ça. Je me fais pas de soucis pour toi. Et justement, il y a la partie du coup vie professionnelle, mais sur le côté vie personnelle, est-ce que partir en vacances, pour toi, c'est quelque chose de faisable, compliqué? Comment tu t'arranges justement avec l'endométriose?
Alors elle part avec moi en vacances, elle a la chance parce qu'elle part tout frais payé. Mais bon, avec le Covid, j'ai pas trop pu me poser trop de questions.
Oui, c'est sûr, en ce moment.
Mais on a réussi à partir un petit peu en France. Par exemple, moi je suis de Lyon, donc on est tous amoureux de Strasbourg. Et on y allait déjà 2 fois ensemble depuis mon diagnostic et même avant. avant d'être diagnostiquée, je pouvais partir. Alors, autant quand j'étais adolescente, c'était un vrai carnage parce que je me rappelle, j'étais partie en Allemagne faire une correspondance et je me rappelle que j'avais alerté tout le village tellement que j'avais été malade et que la mère de ma corée savait pas quoi faire avec moi, bichette. ça a été très dur. Aujourd'hui, j'ai la chance de réussir à maîtriser mes symptômes. Donc, on va dire que je connais mes limites, je sais ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Voilà, je sais que je peux aller un peu me balader, mais il faut que j'ai des étapes pour m'asseoir. Je sais que je vais éviter de faire des choses qui sont trop physiques. Ce qui est bien, c'est que ouais, mon compagnon est toujours là aussi pour veiller à ce que je pousse pas non plus trop, parce que des fois j'ai trop envie de faire des choses et que je me mets pas de limites. Donc, il est là aussi pour me dire stop, arrête-toi parce que tu vas le regretter. Et j'arrive à faire un peu le compromis. Bon, bah, si des fois j'ai envie de manger un truc qui me fait vraiment plaisir, mais je sais que ça peut me rendre malade, je vais éviter de boire un truc qui peut en rajouter. Bref, en gros, j'essaye vraiment de me dire, voilà, essaye d'adapter au mieux. Voilà, il y a des activités, je peux pas faire tout dans une journée, et ben je vais étaler une activité. Par contre, c'est vrai que maintenant, quand je me déplace, tu vois, j'emporte mon TENS avec moi, des médicaments au cas où. Et en fait, on a toujours un petit sac avec nous quand on se déplace parce que, bah oui, malheureusement, ça peut toujours arriver que je tape une crise. Et là, je me dis, si jamais j'ai rien, ça peut être compliqué. Et l'air de rien, psychologiquement, je pense que de savoir que j'ai ma petite trousse de médicaments et que si jamais ça arrive d'un coup, pour un oui ou pour un non, j'ai ce qu'il faut, ça me fait vraiment un... Voilà, ça me rassure, c'est vrai que, tu vois, là, par contre, pour mes 30 ans, donc l'année prochaine, mon rêve, c'est de partir au Japon. Et là, je sais que j'imagine que je ne peux pas me déplacer avec des médicaments puissants à l'étranger et encore moins avec un TENS dans un avion, je suppose. En tout cas, c'est une question que je me pose parce que je ne sais pas la réponse. Et là, je me dis, là, par contre, ça me fait un tout petit peu peur parce qu'en fait, si jamais il m'arrive quoi que ce soit, bah pareil, il faudra que je me renseigne pour savoir quel hôpital est le plus proche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaîtra l'endométriose là-bas? Comment ça se passe? Il faut que je me fasse rapatrier? J'en sais rien si jamais il y a le moindre problème. Parce que ça peut arriver, hein, on ne sait pas. Hein. Mais je me le souhaite pas. Mais tu vois, c'est en fait un petit peu quand même l'inquiétude de se dire par contre, voilà, je ne peux pas faire tout le temps des trucs spontanément parce que je suis tributaire de ma maladie. Et que si jamais je fais des choses trop spontanément et que je prends pas mes dispositions, soit ça passe, soit ça passe pas du tout, quoi.
Ouais, c'est ça. Mais comme tu le disais, on a besoin d'un filet de sécurité. Hein. Étant malade chronique, si on a nos médicaments, on sait qu'ils sont à portée de main, qu'on sait qu'il y a un centre de référence qui prend en charge la pathologie là où on est en vacances, c'est tellement rassurant, en fait, pour nous. J'espère pour toi que ma patho va se développer au Japon. Comme ça, on pourra te dire quel est le centre qui te prendra en charge si tu as un souci et que tu es en voyage.
Ça serait super.
Et justement, donc, toi, avec ton compte Instagram, tu as pu sensibiliser ton conjoint à la pathologie. Est-ce que, justement, tes proches, tes amis ou d'autres personnes... C'est un souhait justement de pouvoir faire de la prévention sur l'endométriose.
Ouais, alors c'est vrai que moi c'est assez ouf parce que dès que j'ai su, clairement, j'en ai parlé à tout le monde. Et en fait, je pense que j'avais besoin que tout le monde soit au courant parce qu'en fait, j'ai pu mettre vraiment un mot sur tout ce qui m'arrivait et je voulais leur dire, vous voyez... tout ce qui s'est passé depuis que je suis gamine, c'est pas des histoires, en fait. Parce que c'est vrai que j'étais toujours un petit peu vue comme la petite fille. J'avais un surnom même. Mes cousins m'appelaient Porcelaine. Donc, pour te dire, ça veut tout dire. Alors, c'était pas méchant, ça, c'est lourd de sens, quoi. Et c'est en ça. Fait, j'avais besoin de leur dire, en fait, la porcelaine, finalement, c'est du béton armé. Parce que tout ce qui m'est arrivé, finalement... j'ai pas honte de dire que fallait avoir sacrément des tripes en fait pour réussir à tenir et je l'ai fait et j'en ai pas honte de le dire et en fait tous mes proches m'ont dit oh mon Dieu, mais c'était donc ça. Enfin, moi à l'époque, en fait, quand j'étais diagnostiquée, ça a été très, 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 très dur. C'est qu'en fait, je parlais plus à ma mère. Enfin, ma mère, on se parlait plus depuis presque un an. Non, ouais, presque un an. Enfin, bref, on se parlait plus. Et en fait, quand j'ai été diagnostiquée, ça a été très, 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 très dur les premières semaines parce que, en fait, quand ça m'est arrivé, en plus, c'était en plein Covid, donc confinement. J'étais vraiment abrutie de douleur, j'en délirais de douleur en fait, tellement que j'avais vraiment, j'en pouvais plus à cette époque. Et en fait, je me rappelle qu'un matin, en fait, je délirais de douleur dans mon lit et mon conjoint vient me voir en disant « qu'est-ce que je peux faire ?» Et en fait, j'ai pleuré comme une petite fille en disant « je veux ma mère ». Et ça a été super dur. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir des proches d'enfer. Et en fait, c'est mon cousin qui a renoué le contact avec ma mère en lui disant « il faut absolument que tu ailles voir ta fille, ça va pas du tout ». Chose qu'elle a faite. Et en fait, ma mère était juste abasourdie de tout ça. Elle pensait pas que c'était aussi grave, en fait, tout ce qui m'arrivait. Et en fait, quand je lui expliquais le diagnostic, voilà, les atteintes que j'avais, l'opération qui m'attendait, elle était sous choc. Enfin, je veux dire... On venait de perdre notre... Enfin, moi, je venais de perdre mon père en 2016 avec ma petite sœur. Il y a eu ça ensuite et ça a été extrêmement violent. Et en fait, voilà, ma mère m'a dit, elle m'a dit, je suis ta mère, je vais être là. Enfin, c'est comme ça. Et en fait, tous mes proches ont vraiment été là. En plus, dans notre famille, on a eu d'autres annonces très difficiles en même moment. Extrêmement difficile et en fait on a réussi à se souder et ça a vraiment je me suis jamais sentie rejetée par rapport à ma famille. Mon conjoint au contraire, il a toujours voulu tout savoir, enfin tout ce que je pouvais comprendre de la maladie, il a toujours voulu savoir comment il pouvait m'aider, qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que je ressentais comme douleur. Des fois je lui expliquais quand je suis en période de règles, quand j'avais mon nodule, enfin mon gros nodule au diaphragme, l'endométriose, quand t'as tes règles, les cellules elles saignent, donc mon nodule en fait saignait sur lui-même. Et en fait le matin, quand je me réveillais, en fait je dormais souvent sur le côté, et en fait il y a des matins où je me réveillais en fait de douleur parce qu'en fait j'arrivais presque plus à respirer. En gros, je me retrouvais complètement engluée au niveau droit. Et en fait, quand je bougeais pour me réveiller, en fait, tout se tirait en fait à cause des adhérences et ça me scotchait en fait toute la cloison à la droite. Et en fait, j'arrivais presque plus à respirer tellement que j'avais mal. En fait, ça me transcendait de douleur. Et en fait, mon conjoint m'a demandé en fait qu'est-ce que c'était comme douleur et je disais c'est comme si j'avais de la cire dans le diaphragme. J'ai dit j'ai l'impression qu'on me coule littéralement de la cire sur le diaphragme et ça colle et ça c'est chaud. Et en fait, c'est juste horrible comme douleur. Et c'est vrai que de pouvoir un peu mettre des images sur les douleurs, je crois que ça l'a aussi aidé à comprendre le calvaire que ça pouvait représenter, quoi.
C'est ça, l'information, c'est clé. Et justement, est-ce que toi, tu penses que mieux s'informer, c'est pouvoir mieux gérer ces douleurs ?
Ah, complètement. Complètement. Pour moi, l'information, déjà, c'est un droit quand t'es patient. Et ça, on n'est pas forcément toujours informé. Et en fait, je le dis et je le redis souvent quand je gère mes contenus en disant la première chose à faire quand tu es diagnostiqué, c'est déjà de poser toutes les questions que t'as posées et qu'en gros, tant que tu n'as pas compris ce qui t'arrivait, t'avais le droit de poser toutes les questions que t'avais besoin pour comprendre. Et en fait, comprendre une maladie, comprendre comment ça fonctionne, en tout cas chez nous, où c'est qu'on a nos atteintes, qu'est-ce que c'est la différence entre, par exemple, l'adénomyose et l'endométriose, parce qu'aujourd'hui, c'est pas toujours facile d'expliquer la différence à tout le monde, mais c'est pas la même façon de vivre les atteintes. En plus, pas forcément tout le monde, même si t'as les mêmes atteintes, tu ressens pas forcément la même chose. Et bon, il y a tout un savoir à connaître sur la maladie, et surtout à connaître sur la maladie, comment elle nous impacte. Et en fait, ça va t'aider aussi à comprendre pourquoi tu as mal ici, pourquoi tu as mal comme ça, pourquoi ça t'handicape au quotidien. Finalement, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour essayer de travailler, par exemple, l'exemple typique que je peux te prendre, Moi, j'avais des problèmes donc pour aller à la selle parce que du coup, voilà, c'est la constipation chronique parce que du coup, vu que j'ai plus de sigmoïdes, je ne sais plus quand je dois aller aux toilettes. Et en fait, ça, c'est quelque chose que du coup, j'ai pu corriger parce que du coup, on m'a expliqué, voilà, et voilà, on t'a retiré une partie du tube. Il y a des connexions du coup nerveuses qui se font plus comme avant. Ça fait que du coup, tu sais plus quand tu dois aller aux toilettes, mais du coup, tu te constipes. Et ça peut être aussi délétère pour ton périnée. Et donc, on m'a dit, ce qui serait bien, c'est d'aller voir donc une kiné périnéale pour pouvoir faire des exercices en interne et en externe, pour pouvoir t'apprendre aussi à refaire les mouvements au niveau abdominal, pour pouvoir pousser pour aller aux toilettes, reconnaître les moments quand il faut que tu y ailles. Et aussi, du coup, il y a toute une sorte de choses qui vont se combiner tout autour pour justement préserver ce périnée qui peut être fragilisé aussi avec le temps et en plus avec ce type d'opération. Mais parce que c'est pas qu'on touche au périnée, c'est qu'en fait, bah voilà, c'est toute la sphère gynécologique qui en pâtit visiblement.
C'est ça.
Et aussi, ça va t'aider à travailler sur tes douleurs du petit bassin. Et en fait, c'est tout, finalement, le corps humain, voilà, c'est un ensemble. Donc en fait, quand il y a un endroit où ça va pas, ça va aller avoir un impact sur le reste. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et je pense que c'est ce qu'il faut vraiment véhiculer, c'est que le savoir, bah, c'est le pouvoir. C'est pas moi qui l'ai inventé cette phrase, mais franchement, je la trouve juste géniale. L'endométriose, c'est vraiment un prisme de symptômes tu peux vivre en fonction du moment où tu es dans la maladie, en fonction de où tu en es au niveau personnel, parce que des fois, en fonction de comment tu vas être, si tu es stressé ou pas stressé, ça peut jouer aussi. Donc en fait, plus tu t'informes sur la maladie, plus tu t'informes sur les conséquences que la maladie peut avoir sur toi, plus tu vas essayer de chercher des solutions, parce que du coup, tu vas mieux comprendre aussi tes limites, ce que tu peux faire pour adapter ta vie. Et du coup, ça peut vraiment avoir un impact sur comment toi, tu vas gérer ta prise en charge. Parce qu'on pense souvent... tous les médecins vont te dire quoi faire, mais aujourd'hui, c'est pas si simple que ça. La prise en charge, c'est toi qui la prends, dans le sens que tu as tes mains, tu vas commencer à attraper les sujets à bras le corps, et le patient, en fait, il faut vraiment essayer de trouver une façon de dire à son médecin, moi je veux être accompagnée. J'ai tel problème, qu'est-ce que vous me proposez comme solution, et si jamais c'est pas de votre ressort, où est-ce que je peux aller? Et ça c'est hyper important. Moi j'ai des médecins qui m'ont volontairement dit un médecin traitant qui m'expliquait, qui me disait honnêtement, moi je ne connais pas l'endométriose, mais par contre quand je vois votre dossier, je peux pas vous laisser comme ça, et on va trouver des solutions, on va chercher l'information. Et moi, je ne vous laisserai pas comme ça.
C'est super qu'elle ait eu ce discours avec toi, en tout cas.
C'est sûr.
Et pour terminer le podcast, la dernière question de ma pato, c'est pour toi, qu'est-ce qu'un happy patient, du coup?
Le happy patient, c'est celui qui arrive à vivre avec sa maladie. Qui a du coup réussi à développer une forme de résilience, parce que voilà, on est souvent amené à subir sa maladie. Alors c'est sûr que c'est très facile à dire, mais c'est sûr que c'est très difficile à faire, qu'on n'est pas tous égaux face à tout ça. Le happy patient, c'est celui aussi qui va essayer de se donner les moyens pour s'en sortir, qui va aller chercher de l'aide, qui va essayer de s'informer. Celui qui va aussi essayer de s'entourer des bonnes personnes. Et surtout, la happy patient, je pense que ça commence par la bienveillance envers soi-même, parce que des fois, on peut être très dur avec soi. On a l'impression qu'on a tout raté dans notre vie, mais en fait, non, pas du tout. Je pense que c'est vraiment le plus important, c'est de se dire « je suis pas seule ». C'est vrai que c'est pas facile. Mais aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il faut y croire. Parce que l'espoir, c'est ce qui fait qu'on a envie de se lever le matin. Et sans l'espoir, on n'y arriverait pas, je pense. Et voilà, il faut savoir qu'on est aimé, qu'on va encore vivre de très belles choses, même si parfois c'est sûr que la vie, elle n'est pas tendre avec nous. Mais il faut essayer de se rattacher à ça, parce que sinon, c'est très compliqué.
Bah, merci, c'est une très belle description d'un happy patient en tout cas. En tout cas, je te remercie Pauline d'avoir témoigné sur ton parcours et j'espère que ça pourra en aider plus d'une.
Bah, j'espère aussi en tout cas. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très touchée.
Bah, merci Pauline.
Merci.
Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapato.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Vous pourrez y retrouver des informations ou des professionnels de santé recommandés par d'autres patients pour toute pathologie chronique comme l'endométriose. Partagez également votre expérience en recommandant des soignants ou des ressources qui vous ont aidé pour votre pathologie. Pour soutenir le podcast chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.